Bonsoir Nathalie Mauriac.
Bonsoir Philippe Garbi.
Alors, c'est suite à la réapparition miraculeuse et à la publication merveilleuse des 75 feuillets et autres manuscrits inédits de Marcel Proust chez Gallimard ce printemps que j'ai eu envie de vous recevoir et donc de bâtir toute une nuit autour de l'idée de manuscrit. C'est vous qui avez établi cette édition, préfacée par Jean-Yves Tadier. Plus tard dans la nuit, nous recevrons Joël Julie, responsable du dernier numéro de la revue Genesis, consacré à la chanson, parce que la chanson, comme le roman, a droit à une étude génétique, puisque c'est le principe de cette revue Genesis. Nous parlerons peut-être de Brassens, de Brel, de Barbara, qui sait. Autant avoir parler d'interprètes, auteurs et compositeurs que l'on aime. Mais revenons donc à Marcel Proust et à ses 75 feuillets et autres manuscrits, Nathalie Mauriac. Vous savez bien sûr pourquoi cette nuit des manuscrits est programmée cette nuit.
C'est une nuit, en effet, c'est pas la nativité, mais enfin presque, c'est la naissance de Saint-Marcel. Marcel Proust est né, en effet, un 10 juillet.
Voilà, on est un petit peu le 11 maintenant, mais enfin bon, on était le 10 il y a si peu de temps.
Ça passera tout de même.
Voilà.
10 juillet 1871, donc...
Chiffre rond,
il y a 150 ans exactement, et donc le monde proustien s'agite un peu pour célébrer notre grand homme, et les 75 feuillets sont une réapparition, je dirais, tout à fait imprévue pour coïncider avec cet anniversaire, puisque ils avaient disparu, ou plutôt ils étaient inconnus, ils étaient mystérieusement quelque part, on ne savait trop où, depuis le milieu des années 50, depuis leur première mention dans la préface d'autres inédits de Proust, où ils étaient perdus au milieu de tant d'autres inédits que ma foi, peut-être n'attiraient-ils pas tellement l'attention à ce moment-là.
Vous dites ils étaient inconnus, ils n'étaient pas inconnus en fait, en tout cas pas de vous, Nathalie Mauriac, ces 75 feuillets qui étaient 76 d'ailleurs, puisque justement il en était question dans la préface, c'était la préface du Contre Sainte-Beuve, donc Bernard de Fallois avait édité à la demande de Susimonde Proust, qui était la nièce de Marcel Proust et incidemment votre grand-mère, Nathalie Mauriac, et vous ne vous étiez jamais demandé, vous, depuis un certain nombre d'années, tiens, mais ces 75 grands feuillets, où sont-ils? Après tout, on en parle et puis ils n'apparaissent pas.
Bien sûr, tous les chercheurs en Proust, depuis des dizaines d'années, depuis que les Proustiens ont commencé à s'intéresser aux manuscrits, c'est-à-dire au milieu des années 60, quand les manuscrits sont rentrés à la Bibliothèque nationale. Beaucoup de chercheurs se sont précipités pour les étudier, pour essayer de comprendre. Et on s'est rendu compte que dans cette masse extraordinaire de manuscrits ne figurait pas ce que Bernard de Fallois avait appelé être 75 feuillets, donnant donc une version très primitive, la plus primitive, à la recherche du temps perdu. Oui. D'où grandes interrogations, questions sans réponse.
Bon, alors la réponse pourrait être un roman, finalement.
Voilà, la réponse est un autre roman.
Oui, que vous écrirez peut-être, vous, Nathalie Mauriac?
On ne sait jamais.
Bon, bah oui, non, mais ça mérite, en tout cas, quand une disparition, puisqu'on on va partager l'amour des manuscrits au cours de cette nuit, il y a les manuscrits que l'on trouve, que l'on cherche, on pourrait dire que l'on cherche et que l'on trouve, et puis il y a aussi les manuscrits que l'on ne trouve jamais, que l'on espère toute une vie.
Il y a les manuscrits brûlés, il y a les manuscrits sacrés. Le manuscrit est en soi un objet qui attire tous les fantasmes parce que c'est un peu une partie du corps de l'écrivain. En tout cas, le manuscrit autographe, il y a un petit peu quelque chose du corps qui s'est déposé là. C'est quand même une relique. Et du fait que c'est une relique, quand c'est une partie de l'œuvre, ça acquiert. C'est comme un tableau, c'est comme une petite toile de maître qu'on nous aurait caché et qui serait resté dans le secret d'un placard parisien à l'insu de tous. Et donc forcément, la disparition, le mystère, le rêve, le fantasme, tout ça, ça crée autour de cet objet une véritable aura qui fait que lorsqu'effectivement j'ai vu ce manuscrit arriver devant moi, ça a été une forme d'apparition, oui. Il y a une forme d'apparition parce que tout d'un coup, quelque chose s'incarne qui était totalement un rêve et on n'ose presque pas le lire. On n'ose presque pas le lire. On le lit, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Il y a une forme le choc est vraiment fort. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et je pense que tout Proustien normalement constitué l'aurait vécu de la même façon.
Alors vous êtes chercheuse au CNRS. ITEM, CNRS, ITEM, c'est
Institut des textes et manuscrits modernes. Alors que l'IRHT, l'Institut de recherche sur l'histoire des textes, s'intéresse, lui, aux manuscrits de transmission, aux manuscrits occidentaux les grands, et orientaux, les grands manuscrits de la tradition philologique mondiale. Donc c'est notre grand frère.
Alors il y a à peu près 2 ans, Nathalie Mauriac, qu'ont réapparu ces 75 feuillets. Et pour arriver à cette publication chez Gallimard, qui n'est pas le format des feuillets, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est pas le format de la collection blanche habituelle des romans, c'est un format un peu plus grand. Comment expliquer alors que ça vous est arrivé comment vous, un jour, on vous a appelé, on vous a dit, ça y est, les légendaires feuillets ont réapparu,
non,
ils vont rejoindre la BN.
On m'a pas dit
venez
ça.
Les voir.
On m'a dit, venez voir ces manuscrits qui ont été retrouvés, venez voir s'il y a quelque chose de publiable là-dedans, venez inventorier. Voilà. Et en fait, le processus de publication lui-même a été long et complexe.
Si long quand même, à peine 2 ans.
Non, c'est-à-dire que si, ça a été long, parce que les manuscrits ont été retrouvés au début de 2018. Et je n'ai pu commencer l'édition que fin 2019. Donc un manuscrit retrouvé, c'est aussi beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de mise en place. Et donc le travail a pu commencer à l'automne 2019 seulement. Et en réalité, je n'ai pas pu regarder ni lire ces manuscrits avant de savoir que effectivement j'allais les éditer. J'aurais très bien pu ne pas les éditer. Enfin, ça n'était pas un droit divin que j'édite ces manuscrits.–
Ni familial.
Familial tout de même, oui, un peu. Familial.
Puis vous avez quand même une certaine légitimité, Nathalie Mauriac.
Familial, si, tout de même. Je ne peux pas. Oui, ça serait absurde de dire le contraire.
Et les études en Proust, comme vous avez dit tout à l'heure, on vous en doit beaucoup. Et quand on travaille depuis un certain nombre d'années sur Marcel Proust, on a quand même le droit d'arriver. Et un jour, alors comment ça se passe? C'est les vrais manuscrits que vous avez eu en main avec des gants blancs de protection des...
Non, figurez-vous que les gants blancs, même à la BN, ils ne les recommandent pas. Non, là, c'était dans un bureau tout à fait ordinaire, je peux dire. Et non, j'ai eu accès à ces manuscrits de la manière la plus simple, comme j'ai accès là aux papiers qui sont sur ce bureau, de manière la plus simple du monde. Mais après, j'ai travaillé sur des facsimilés.
Et quand vous arrivez comme ça, vous voyez ça dans un bureau, des manuscrits posés sur une table, vous trouvez ça normal? Il doit y avoir de l'encens qui...
Oui. Non. Effectivement, on ne respecte jamais assez les manuscrits. Non, mais ce sont des... En fait, les manuscrits, il ne faut jamais oublier que les manuscrits de travail des écrivains, ce sont les objets les plus quotidiens qui soient, les plus humbles aussi. C'est jamais qu'un peu de papier et un peu d'encre dessus. Ce sont des objets extrêmement... une grande simplicité. Et quand on les retrouve comme ça, c'est vrai qu'ils ont une forme... Ils sont dans une forme de dénuement et d'abandon. plutôt que de ce ne sont pas les objets l'objet qui est en train d'être restauré en ce moment à la Bibliothèque nationale, qui fait un travail remarquable de restauration page à page, parce que ce manuscrit était déchiré, etc. Donc il y a une remise en état, un véritable soin qui est pris de cet objet. Après, il y aura une photographie, une numérisation, une mise en ligne sur Gallica. Alors tout ça va donner une forme de majesté au manuscrit, qui n'est pas du tout ce qu'est l'objet en réalité, qui est de grandes feuilles de papier. Et alors, l'émotion vient de ce que je savais en voyant arriver ces grandes pages de plus de 35 cm de haut. Grandes pages, je pressentais, je savais ce que c'était avant même d'avoir pu lire les premières lignes.
Alors le bandeau de l'édition des 75 feuillets chez Gallimard dit « Ici commence à la recherche du temps perdu ». Vraiment ?
Pour nous ? Pas pour Proust.
Oui.
Pour nous, oui. Pour nous, c'est la première fois qu'on a un ensemble de textes, d'épisodes, qui seront tous repris dans la recherche et qui forment un ensemble. Alors, un ensemble qui n'est pas relié. Il n'y a pas de le lien n'est pas encore fait entre les chapitres. Mais enfin, on a une série d'épisodes qui vraiment sont les épisodes clés et qui constitueront à la recherche du temps perdu. Mais Marcel Proust, lui, évidemment, ne sait pas qui commence son grand roman.
Et là, on est en quelle année alors?
On est fin 1907, début 1908. Il a probablement commencé à la fin 1907, en réalité sur des manuscrits qui ont également été retrouvés en même temps, que je donne ensuite, qu'il va réécrire dans les 75 feuillets. Et 75 feuillets, il va y travailler au début de 1908 et certainement pendant l'été de 1908, quand il est à Cabourg. C'est là qu'il écrit certainement les pages, sur les premières pages sur les jeunes filles qu'on trouve dans ces 75 feuillets.
Alors qu'avez-vous découvert, peut-être avez-vous découvert, Nathalie Mauriac, des passages qui ne sont pas dans la recherche, parce que vous connaissez par cœur votre Proust et votre recherche du temps perdu, et le Jean Santeuil, et le Contre Sainte-Beuve, et les pastiches, etc. Enfin, vous connaissez tout. Peut-être avez-vous découvert des pistes qui n'ont pas été explorées par la suite?
Oui, il y a des passages qui n'ont pas été là, qui n'en seront pas repris, mais ce qui m'a d'abord frappé et ce qui frappera tout lecteur, ce sont les passages qu'il a modifiés et surtout déplacés. Par exemple, dans la très célèbre scène du baiser du soir, que tout le monde connaît, il y a cette chose extrêmement étrange qui est une allusion à la mort de la mère du petit narrateur, et un rêve posthume, un cauchemar posthume de la mère morte. Et ça, en plein milieu du baiser du soir, c'est complètement hors de propos pour nous. Donc ça, ce genre de déplacement est très émouvant pour moi. Les pages sur Venise ne ressemblent absolument pas aux pages sur Venise qu'il a publiées. Il y a une évocation de Saint-Marc qui est tout à fait étrange et qui... où il évoque un Christ en pacha oriental bouffon, qui est quelque chose de tout à fait surprenant, qui n'a absolument pas repris. Dans les pages sur les promenades des côtés, il y a un passage que je trouve magnifique et qui a été peu cité. Je l'ai noté dans les commentaires qui ont paru depuis quelques mois. C'est le passage où le héros se souvient d'une voit une allée d'arbres et se souvient à un souvenir. Et ce souvenir lui évoque des forêts, des femmes qui font des activités, qui sont mystérieusement là dans l'ombre. Et ce souvenir, tout d'un coup, est identifié comme un souvenir d'une allée à tel endroit du village d'enfance. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui... pour nous, peut être lu, parce qu'on retrouve textuellement certains bribes de phrases, peut être lu comme une préfiguration des trois arbres du Dix-Ménil.
Avec le docteur
avec la calèche de Madame de Villeparisis à Balbec, quand ils sont à Balbec en voiture et qu'ils passent devant trois arbres sur la route du Dix-Ménil et que ces trois arbres lui font des signes désespérés et qu'il a l'impression très douloureuse d'un souvenir qui lui échappe et qu'il ne retrouve pas, et les trois arbres lui font signe comme des morts qu'il abandonne. Eh bien, dans les 75 feuillets, on trouve déjà cette allée d'arbres, mais sous une forme très étrange parce que la clé du souvenir est donnée. Et puis dans la deuxième version, la clé du souvenir n'est plus donnée déjà, elle est déjà effacée. Mais ça se passe à Combray. Donc, autrement dit, on a en quelque sorte la clé d'un épisode que Proust a voulu totalement mystérieux et dont il a voulu que ce soit un échec, justement. Mais là, on l'a sous une forme poétique et tout à fait imprégnée d'une atmosphère à la Nerval. Et pour moi, c'est une des plus belles pages des 75 feuillets. C'est vraiment une page d'une poésie extraordinaire.
Mais la mémoire involontaire est-elle déjà dans les 75 feuillets?
Alors, elle n'y est pas. Néanmoins, il y a un petit moment où il parle de l'odeur du thé qu'il se fait à Paris. Même un peu étrange, cette odeur du thé qu'on retrouvera dans un brouillon un peu ultérieur qu'on raccroche au Contre Sainte-Beuve, où il est question de l'odeur barrée, le goût du thé. Donc, il y a cet élément qui évoque déjà une préparation des réminiscences, non pas les réminiscences elles-mêmes, mais un projet d'évoquer les réminiscences. Puis il est aussi question de géraniums, qui sont à ce moment-là une fleur détestée, qui ne provoque pas encore une impression poétique. Et dans ce « pas encore », on voit bien qu'il y aura aussi la préparation d'une réminiscence. Et donc là, il y a tout un travail qu'on voit que Proust est en train de mettre en place autour d'un couple poétique qui sont les géraniums et les orangers, qui existent en fait depuis Jean Santeuil et dont il qui procure une sorte de couple poétique qui fait partie des premières réminiscences du pain grillé dans la toute première version du Contre Sainte-Beuve. Donc en fait, il y a bien dans ces 75 feuillets, non pas des réminiscences en tant que telles, mais des embryons. On voit que le projet est déjà là, et que probablement les premières pages de Contre Sainte-Beuve, où il évoque des réminiscences, sont en quelque sorte une queue de ces 75 feuillets qui a été déjà recyclée, parce que Proust recycle constamment les choses.
Le pain grillé deviendra Madeleine plus tard, une dizaine d'années.
Enfin, après avoir été pain rassis, oui. Il est d'abord du pain rassis.
Alors, Nathalie Moria, grâce à vous, donc, sont édités ces 75 feuillets et autres manuscrits et inédits chez Gallimard. Et grâce à vous, et à vos notices, votre chronologie, vos notes, qui sont passionnantes, parce que sinon, on serait un petit peu perdu. Enfin, c'est normal. Je ne suis pas un chercheur, je suis un lecteur, mais modeste. Enfin, voilà. Et grâce à vous, on est dans un lecteur des 75 feuillets, on devient, et grâce à ces manuscrits, on devient, ami de Proust, enfin en dialogue avec Marcel Proust, l'auteur, on a envie de lui dire c'est pas encore ça, mais encore un petit effort. Et...
oui, il y a certaines phrases qui sont peut-être un petit peu bancales, mais si peu. Non, j'ai voulu faire une édition qui soit un peu graduel, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse rentrer tout de suite dans le texte de Proust, se plonger dedans. On peut lire la préface de Jean-Yves Tadier, qui est magnifique, mais on peut aussi ne pas la lire. On peut directement se plonger dans le texte de Proust. Et puis, petit à petit, après, on a d'autres manuscrits qui élargissent le champ et qui permettent de voir comment Proust... comment son écriture prolifère de manière poétique et se ramifie, se multiplie et s'étend. Puis après vient la partie plus critique, où là j'essaye de fournir des clés. Mais je ne sais plus quelle était votre question. Est-ce qu'il faudrait...
C'est le dialogue que l'on a, et que, grâce à vous, avec l'auteur, en train d'écrire des brouillons en quelque sorte. Et pour peu qu'on ait en tête à la recherche du temps perdu, enfin beaucoup moins que vous, bien entendu. Mais enfin, on a envie de dire à l'auteur de ce manuscrit, à la personne qui écrivait comme ça, qui a des fautes, qui c'était pas fait pour être lu par d'autres personnes que lui, d'ailleurs il les relisait-il, sans doute, on a envie de lui parler. Enfin, vraiment, c'est un dialogue.
Ah oui, vous avez ressenti ça?
Ah oui. Oui. Plus aussi, comme une sorte de, non pas de journal intime de Proust, mais quand même, il y a un petit côté, on parlait de Genesis, il y a un côté... arbre, voilà, un arbre généalogique un peu, parce que il écrit, il parle de sa mère, enfin la mère du narrateur. Le mot narrateur n'est pas employé, mais la personne qui dit je a une mère qui a un prénom, qui est le prénom de la mère de Marcel Proust, une grand-mère est pareil, un grand-père pareil, etc. et tout. Et là, on peut se dire faussement modeste. Non, non, c'est pas la peine de donner les bons les mêmes prénoms. C'est pas ça. Et non plus le. Pourquoi donner au narrateur le prénom de Marcel? Enfin, il l'aura dans la recherche, mais deux fois, je crois. Ça donne une comme ça, un plaisir.
Un plaisir de remontrance. Moi, je n'ai pas vécu comme ça ces prénoms. Moi, ça m'a énormément touchée. Quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. Quand j'ai vu Adèle sur la première page, et quand j'ai vu Jeanne quelques pages plus loin, je n'en suis pas encore revenue qu'il ait osé faire ça. Et je trouve que c'est effectivement, on peut y voir une forme de naïveté. Encore un effort, monsieur l'écrivain. Mais c'est tellement touchant, et surtout c'est tellement précieux. C'est tellement précieux parce que. Voilà, on voit bien que la grand-mère a ce caractère qui est tout de même, qu'elle n'est absolument pas l'espèce de sainte qu'elle devient presque dans le roman, où elle devient un personnage tout à fait intouchable, alors que là, elle est quand même assez désagréable avec toute sa famille, assez sans gêne. Elle est très désagréable avec son beau-frère. Elle refuse de se changer pour le dîner, ce qui n'est pas très gentil. Elle renverse des fleurs, elle ne s'excuse même pas, comme fera Bloch. Elle emmène ses petits-fils dans l'eau glaciale parce que c'est bon pour eux, en se fichant complètement de ce c'est peut-être pas du tout ce dont ils ont envie. Non, elle est d'un parfait sans gêne et c'est pas du tout le personnage de la recherche. Et c'est ça qui est extraordinairement précieux.
Et alors là, tous les Proustiens qui n'ont pas encore lu ces 75 feuillets, Nathalie Mauriac, disent, mais pourquoi dit-elle ses petits-fils? Enfin,
le chercheur
perdu, il y a pas, le narrateur est un enfant unique.
Et puis en effet, mais le petit frère est là. Le petit frère est là dans l'épisode...
Petit ou aîné?
Ah, alors il y a les deux. Enfin... Effectivement, dans le chapitre, premier chapitre, il est petit frère. Il a 4 ans et demi, 5 ans. Et puis dans l'autre chapitre, il devient le frère aîné. Voilà, ben, il a le droit à quelques incohérences tout de même.
Oui, on peut bien tâtonner comme
ça. On peut bien tâtonner, oui. Surtout en 1908.
Oui, surtout quand on devient ensuite Marcel surtout Proust, vraiment.
Voilà, quand on deviendra Marcel Proust.
Alors ça, c'est un peu irritant, ce petit ou grand frère qui s'appelle Robert, d'ailleurs.
Non, en fait, il ne s'appelle pas Robert dans les 75 feuillets.
Bah, Robert et le chevreau.
Oui, mais ça, c'est dans un carnet. C'est dans un carnet que Proust désigne ses pages sous le titre Robert et le chevreau. Mais les seuls prénoms de la famille qui sont prononcés dans les 75 feuillets, c'est Adèle, Jeanne, Marcel. C'est le trio. On ne va quand même pas mettre Robert dans ce trio, je ne pense pas. Donc Robert est pour le carnet. Dans son carnet, Proust note page écrite, Robert les chevreaux, etc. Mais c'est clair que Marcel ne peut apparaître qu'à côté. Seul Marcel
est le fils de sa mère.
Oui.
Eh oui. Est-ce que des auditeurs qui ne seraient pas des fans de Proust ou de...
Comment?
D'abord, qui vont le devenir peut-être grâce aux 75 feuillets. Après tout, les voix du Seigneur Marcel Proust sont multiples. Se disent peut-être, mais qu'ils sont vraiment... Pour les vieilles, voilà, le tâtonnement, les virgules, comme ça, qu'est-ce qui est... C'est quoi les collectionneurs de manuscrits que vous n'êtes pas? Vous êtes une chercheuse, mais... On a un esprit particulier quand même, non? Quand on
collectionne des manuscrits.
Oui, quand on travaille toute sa vie sur les manuscrits.
C'est pas du tout, effectivement. Nous sommes deux populations à la fois complémentaires qui avons besoin l'une de l'autre. Parce que les collectionneurs ont besoin des chercheurs pour quelquefois leur dire quels sont les manuscrits intéressants. Et les chercheurs ont évidemment besoin des collectionneurs pour accéder à ces pièces merveilleuses qu'il possède. Mais effectivement, moi, ça ne m'intéresse, enfin, un manuscrit ne m'intéresse que par ce qu'il dit, par ce qui s'exhale de lui. Et l'objet ne m'intéresse pas en réalité. Ce qui m'intéresse, c'est de le lire et de le transmettre.
Donc ce serait beaucoup plus tard un vulgaire mail, courriel.
Oui, ça peut être aussi intéressant, bien sûr. Mm-hmm. Ça peut être aussi intéressant, tout à fait. C'est probablement beaucoup plus difficile à conserver et à transmettre. Le drame de nos mails, c'est qu'on nous les perdons.
Oui, il y a peut-être pas beaucoup de Marcel Proust, cela dit, aujourd'hui.
Oh, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Moi, je ne perds pas espoir.
Bon, alors, donc, Robert le Chevreau, ça parle de quoi? Parce que ça parle d'un frère, du narrateur qui dit de ces deux garçons que ce sont des petits crétins.
Je crois que c'est maman qui dit ça, mais elle ne dit ça que de son fils aîné, parce que c'est évidemment un petit mot d'amour. C'est un petit crétin qui veut dire mon chéri adoré.
Donc, qui va chercher la cravate de son frère, une cravate rose.
Oui, la cravate rose de son frère, la cravate. Mais là, je soupçonne qu'il y a une petite allusion à Lucien Daudet, que c'est pas tout à fait innocent comme jeu sur les cravates. Lucien Daudet vient de publier une nouvelle sur un personnage très dandy qui porte des cravates voyantes et qui est surnommé le prince des cravates. Donc, je pense que Marcel s'amuse à jouer au prince des cravates pour faire un petit clin d'œil à Lucien qui vient de lui dédier cette nouvelle. Il y a ce côté chez Proust du clin d'œil aux amis qui, je pense, est déjà sensible dans les 75 feuillets. On aurait tort de croire que c'est aussi limpide que ça en a l'air. Rien n'est jamais tout à fait limpide chez Proust. Et par exemple, la scène de Robert et le chevreau est certainement une scène au-delà du possible épisode autobiographique du petit Robert Proust refusant de quitter son petit animal parce qu'il faut rentrer à Paris, il y a peut-être un codage autobiographique du côté de l'homosexualité et de la judéité de Proust qui qui est présent. Ça, j'ai essayé d'expliquer dans les notes, alors c'est bon.
Mais vous avez réussi, vous avez réussi. Vous avez réussi aussi, Nathalie Mauriac, qui a parlé de l'antisémitisme d'un grand-père, enfin, qui est aussi dans la recherche.
Oui, alors ça c'est une drôle d'histoire, parce que dans la recherche à Illier, alors ce dont on se rend compte qui est quand même très important, c'est que, ça c'est une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est que la scène du coucher se passe donc dans Combray 1, donc du côté de chez Swann, et puis tout ce qui se passe à les promenades, etc., tout le reste est dans Combray 2, et c'est la plus grande partie, bien sûr. Mais pourquoi diable Proust a-t-il eu besoin de séparer Combray 1, c'est-à-dire le drame du coucher, de Combray 2, c'est-à-dire les souvenirs de le récit de la tante Léonie, des promenades, etc. Et ça, il est quand même très clair, en lisant les 75 feuillets, que c'est parce que ce drame du coucher se passe à Auteuil, chez le grand-oncle, donc du côté maternel de la famille.
Où est né Marcel Proust.
Où est né Marcel Proust.
Il y a 150 ans, hier.
Voilà. Et où il est né exactement hier, il y a 150 ans. Et donc, le baiser du soir, le drame du coucher, la séparation avec maman, tout ça, ça se passe à Auteuil. Et donc, ce Combray 1, eh bien, c'est la maison d'Auteuil, même si Proust ne prononce jamais le nom, il ne prononce même plus le nom dans les 75 feuillets, mais dans un avant-texte, oui, mais même pas dans les 75 feuillets, Auteuil n'est même pas prononcé. Mais il ne peut pas mêler cet Auteuil de maman et du baiser du soir et du grand-oncle avec le Illier de papa qui correspond à Combray.
J'ai l'impression que la défaite du baiser du soir, ça sera plutôt la mer, non, dans les 75 feuillets, parce que dans Combray, c'est...
Oui, non, bien sûr, c'est la mer, mais ce qui est, bien sûr, ça reste du côté de la mer. Donc il y a une forme de le Combray du livre est très ambigu parce qu'on ne sait jamais très bien si on est du côté du père ou du côté de la mer. Évidemment, puisqu'on est des deux côtés à la fois, puisque une partie se passe du côté de la mer et une partie se passe du côté du père, mais dans le roman il y a un seul Combray, donc ça fonctionne pas très bien en fait en termes de liens familiaux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Là,
vous y répondez. De toute façon, vous y répondez tellement bien dans les notes, notices des 75 feuillets, Nathalie Mauriac, que je vous assure que le plaisir est immense de lire ces textes.
Merci beaucoup.
J'allais vous dire, vous n'y êtes pour rien. Vous auriez pu dire, j'y suis pour rien. Mais non, vous y êtes pour beaucoup, c'est comme ça. J'ai parlé tout à l'heure en début de nuit du personnage de Vrain Lucas. Et je vous en avais parlé au téléphone il y a quelques temps. Et vous m'avez dit, mais je crois que Proust en parle, etc. Trois minutes après, j'avais un mail avec le passage, bien sûr, dans la recherche, je ne sais plus où ça se trouve exactement. Vous êtes sûr qu'on fait allusion à...
Non, on peut, bien sûr qu'on ne peut pas en être sûr, puisqu'effectivement, c'est une allusion, il n'y a pas de nom propre, mais il parle d'un escroc érudit,
oui,
qui aurait...
fabriqué de faux palimpsestes,
voilà.
Et qui aurait pu faire fortune
en faisant une activité tout à fait honnête.
Alors moi, ça m'a fait penser aussi ces lettres de Vrain Lucas, qui fabriquait des lettres pour les vendre à ce pauvre monsieur, Michel Chasles, savant, érudit, mais pas dans cette spécialité, qui lui vendait des lettres de Vercingétorix à Jules César, qui répondait, hein, enfin, donc en vieux français, encore une fois, et puis de Racine, etc. Il y a aussi un passage dans Les jeunes filles en fleurs, c'est la lettre de Sophocle à Racine.
Oui, c'est vrai. Alors, tout à fait la même chose.
C'est la même chose finalement. Alors, il faut dire que là, c'est une rédaction, c'est pour le certificat d'études, c'est André ou Albertine ou Gisèle, je ne sais laquelle, qui fait une lettre. Alors, ça commence comme ça, la lettre de Sophocle à Racine. Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire sans avoir l'honneur d'être personnellement connu de vous, mais votre nouvelle tragédie d'Athalie ne montre-t-elle pas que vous avez parfaitement étudié mes modestes ouvrages ? Qui sait si Proust n'est pas amusé à... Enfin, ça existe, hein, ce genre de rédaction comme ça, avec le... imaginer une lettre de... Mais voilà, il y a quelqu'un qui les imaginait qui les vendait et qui en faisait fortune. Aucun faux Proust n'apparaît de temps en temps.
Et j'aurais aimé en glisser un ou deux, mais on ne m'a pas permis.
C'est vrai ? Vous en avez vu et...
Non, mais il faudrait arriver à en fabriquer.
Bah, vous devriez être parfaite pour ça, quand même. Vous avez le style qu'il faut.
Mais j'aurais jamais la main. J'aurais jamais la main. Ni le style, évidemment, mais ouais. même la main.
Non, mais depuis 50, 60, 70 ans...
Il ne faut pas donner d'idées aux faussaires, parce que ça pourrait être catastrophique.
Non, mais que serait une fausse lettre de Marcel Proust et à qui pourrait-il l'écrire ?
Ah oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a quelques fois, il y a des lettres qui passent en vente dont l'authenticité a été mise en cause. Mais je crois que cette lettre est repassée récemment en vente et on voit bien qu'elle est bien de Marcel Proust. Mais enfin, je pense que c'est un fantasme un peu récurrent. Cette lettre n'est pas une vraie lettre, etc. Bon, c'est pas enfin, très. Oui. C'est très anecdotique. Heureusement, c'est très marginal.
Mm-hmm. Enfin, en tout cas, s'il y a un faussaire contemporain, il ne rédige pas de lettres de Marcel Proust à. Aujourd'hui, par exemple.
On serait ravis qu'il nous écrive l'aide de Marcel Proust à Philippe Garvey, ça serait très précieux. J'aimerais beaucoup la publier.
Bon, on va pas faire ça, Nathalie Mauriac. Tout à l'heure, plus tard dans la nuit, on recevra Joël Julie pour donc la revue Genesis qui s'intéresse à la chanson, parce que la chanson a droit de citer dans cette très intelligente revue qui existe depuis combien de temps à peu près?
Facilement une trentaine d'années, oui. Oui, c'est une revue très, très belle revue, avec beaucoup de très belles illustrations et un contenu scientifique évidemment irréprochable et qui travaille dans la génétique non seulement textuelle, mais effectivement aussi bien de l'architecture, de la bande dessinée et donc maintenant de la chanson.
D'accord. Bien. En attendant, on va pouvoir écouter plusieurs archives, donc comme toutes les nuits sur France Culture. Il sera question des manuscrits de la Mer Morte, il sera question de Vrain Lucas, donc le fameux faussaire, il sera question aussi du manuscrit des 120 journées de Sodome, des mémoires de Casanova, d'un manuscrit d'Hervé Bazin qui parle lui-même de ses... manuscrit de ses premiers romans non publiés, il en parle avec beaucoup d'humour. Et puis, on ira à la Bibliothèque nationale, c'était au début des années 60, voir des manuscrits enluminés du XVIIe siècle. Et puis, il y aura une émission sur les manuscrits, intitulée « Les manuscrits ne brûlent pas » par Christelle Polotek, KGB et littérature. On apprendra, je le dis tout de suite, que le KGB brûlait les manuscrits, évidemment, des mauvais écrivains, mais aussi les recopiait avant.
C'est plus sûr.
Donc finalement, il ne disparaissait pas totalement. Et on se retrouve de toute manière, Nathalie Mauriac, en fin de nuit pour reparler très brièvement de ces 75 feuillets qui méritent beaucoup plus qu'une lecture brève, mais c'est une lecture attentive et un peu amoureuse quand même.
Merci.